Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Une lecture, si vous voulez bien partager avec moi ce passage, on va le lire ensemble. Dans l'évangile de Luc, s'il vous plaît, dans le chapitre 14 et à partir du verset 25. Voilà. Alors, je rappelle Luc 14 et à partir du verset 25. Et je lis ceci, « De grandes foules faisaient route avec Jésus, il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères ou à ses sœurs, même sa propre vie, il ne peut être mon disciple, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir, et il n'a pu achever. » Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on ? Il n'est bon ni pour la terre ni pour le fumier, on le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Voilà. Alors, ça c'est une formule que Jésus emploie assez fréquemment. Quand il interpelle les hommes à travers ce qu'il dit, à travers sa parole, et cette parole est compréhensible et accessible parce que nous l'entendons. Voilà. Et ce qu'on entend, et particulièrement dans ce message de l'Évangile, c'est ce que nous allons en faire. On peut entendre des choses et n'en rien faire, les trouver tout simplement sans intérêt ou insignifiantes, ou alors, il va se passer quelque chose, c'est-à-dire que nous allons prendre avec un grand sérieux, non pas ce qu'un homme nous dit, non pas un message d'église, mais véritablement, cette parole que Jésus nous laisse, et il le laisse à tous les hommes dans tous les temps, parce que cette parole, elle est importante dans nos choix et nos priorités. Qu'est-ce que nous allons faire de ce que nous entendons? Alors on sait déjà, et je voudrais quand même le rappeler à dessein, mais on sait déjà que dans un des passages écrits par l'apôtre Paul, il dit ceci, « Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, ou si vous aimez mieux, vient de la parole de Christ, et c'est ce qui donne la foi. » Alors vous avez déjà commencé à réaliser que lorsque nous entendons le message de l'Évangile, le message de Christ, c'est ce message-là qui donne la foi. Et avec cette foi, tout devient possible dans notre vie. C'est-à-dire, comme nous allons le voir, bâtir, construire et réussir, parce que c'est pas parce que nous construisons que nous allons réussir. On peut commencer sans finir. On peut bâtir avec des mauvais matériaux et à un moment donné, la construction va s'écrouler. Ou alors, dans une autre image que nous allons prendre et que nous avons lue ensemble, être des vainqueurs. Vous savez l'histoire du roi qui part à la guerre. En principe, quand on va à la guerre, quand une nation va à la guerre, c'est pour gagner la guerre. C'est pas pour la perdre, autrement on n'irait pas. Alors, c'est la même chose. Il y a là derrière ces images tout à fait compréhensibles pour quiconque les entend, un formidable message. Et Jésus le dira, et d'ailleurs il le soulignera, parce qu'il ne veut pas que ceux qui, dans les circonstances où il parlait, où cela nous est rapporté dans l'évangile de Luc, il ne veut pas que ses auditeurs, donc audition c'est entendre, Il ne veut pas que ceux qui écoutent sa parole se méprennent. Il ne veut pas les tromper. Il leur dit la vérité. Et il veut que tout simplement, eh bien, les décisions que ces gens, ces hommes et ces femmes prendront pour le suivre ou non, l'écouter ou non, devenir des constructeurs qui réussissent ou des vainqueurs dans les combats et dans les luttes de la vie, eh bien, qu'ils ne se fassent pas d'illusions, mais ce qu'il va leur dire, eh bien, est propre à ce qu'ils réussissent, et à ce qu'ils deviennent des vainqueurs. Alors, on va se mettre à l'écoute. Et on va tirer parti, justement, de ce que Jésus nous dit, si nous voulons être de ses disciples. Alors, on peut toujours être croyant. On peut toujours se déclarer chrétien. Mais être disciple, c'est autre chose. Être disciple, c'est servir Jésus en connaissant sa volonté. Voilà. Il y a bien des gens qui sont bien au-delà de tout cela, sont bien en deçà de tout cela, se disent « moi je crois en Dieu, ça me suffit ». Je crois qu'au ciel il y a un Dieu et ça me suffit amplement, c'est pas la peine d'aller plus loin. Mais on s'aperçoit que Jésus souligne la qualité de disciple. Un disciple c'est comme le sel de la terre, on en a parlé là il y a un instant. Et devenir disciple, c'est de donner finalement avec ce que l'on sait de ce que Jésus nous a dit, que nous gardons au fond de notre cœur, que nous pratiquons dans les choses desquelles nous obéissons, eh bien de pouvoir communiquer aux autres. Et quand je dis les autres, tous ceux qui peuvent être malheureux autour de nous, tous ceux qui sont dans la peine, tous ceux qui traversent le chagrin, tous ceux qui sont dans leur fortune ou dans les difficultés de l'existence. Alors, nous sommes à ce moment-là des communicateurs de ce message qui est capable de faire de ceux qui sont autour de nous, eh bien, des gens qui réussissent et des gens qui sont des vainqueurs. Et c'est pour cela que Jésus dira, eh bien, si vous voulez être mon disciple, si vous voulez être le sel de la terre, c'est-à-dire donner soif aux autres de cette parole qui n'est pas seulement une parole pour la terre, mais une parole pour le ciel, alors à ce moment-là, eh bien, je vais vous dire quelques conseils, si vous voulez bien les entendre, si vous voulez bien les accepter. Et il se retourne vers la foule pour leur dire, eh bien voilà, ainsi les choses sont de cette manière. Parce que si quelqu'un vient à moi, s'il veut venir pour me suivre, si véritablement il veut devenir mon ami, s'il veut devenir mon disciple, s'il veut tout simplement, eh bien m'obéir, alors à ce moment-là, faudra qu'il me donne la priorité, parce que vous avez lu avec moi, sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs. Donc, on a compris tout de suite que dans le chemin dans lequel Jésus nous introduit et dans lequel il veut que nous marchions, eh bien la primauté dans notre vie, dans notre cœur, c'est une question affective. C'est une question, je dirais, quelque peu sentimentale. C'est de lui donner la priorité. Voilà. Jésus en premier dans notre vie. Quelle place Jésus peut-il avoir finalement dans notre existence? Est-ce que c'est un Dieu du dimanche, de l'occasionnel, ou des circonstances peut-être qui font qu'on pense à Dieu lorsque les choses vont mal? Alors on se souvient qu'il y a un Dieu dans le ciel, alors on le prie. Ou est-ce que véritablement ce Dieu-là est un Dieu de tous les jours, qui m'accompagne, puisqu'il m'en a fait la promesse, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde? Vous connaissez, hein? Ce sont des lieux communs de l'Évangile, mais faut-il les rappeler? Parce que c'est important. Alors, c'est une question affective d'abord. Ça ne veut pas dire de ne pas aimer son père, sa mère, ses frères, ses sœurs ou ses enfants. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut donner tout simplement, eh bien, la notion de priorité que Jésus doit avoir à la première place, comme il le dira dans l'Évangile de Matthieu, un texte que nous connaissons bien, et il exhortera ses auditeurs à chercher le royaume de Dieu et sa justice, et que tout le reste nous sera donné par-dessus tout. Alors, c'est une question, c'est vrai, de primauté, de laisser la place à Jésus dans notre vie, et puis c'est lui qui va s'occuper du reste. Alors, ça paraît simpliste, hein, ce que je suis en train de dire, mais c'est pourtant une réalité de la foi, de la confiance que nous pouvons mettre en lui. Lui en premier, eh bien le reste, finalement, eh bien, nous sera donné avec une bénédiction parce que il a la première place. Alors il le dit de cette manière, et il poussera la réflexion un peu plus loin, il dira même sa propre vie, notre propre vie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire mourir? Non, ça ne veut pas dire mourir. Ça veut dire que finalement, mes pensées, ma volonté, mes ambitions, mes projets, mon programme, tout ce qui peut me concerner ou concerne, eh bien, ce que je suis, doit être remis entre les mains de Dieu, entre les mains de Jésus, parce que c'est lui qui va s'en occuper. Et il y a cette belle parole que je cite de mémoire dans un psaume, le psaume 34, c'est Dieu qui dit cela. Il dit, je te conseillerai. Alors si nous avons besoin de conseils, c'est le moment. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Parce que quelquefois, nos routes, eh bien, sont tellement confuses, parfois diffuses, c'est que nous ne savons pas quel chemin suivre. Alors, je te montrerai la voie que tu dois suivre. J'aurai les regards sur toi, donc tu ne seras pas tout seul. Et je te donnerai, eh bien, là, finalement, tout ce qui sera nécessaire pour que tu puisses entreprendre, finalement, eh bien, ta vie, mais dans la bonne direction et dans le bon sens. Alors, même sa propre vie, et quiconque ne porte pas sa croix, ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Alors, il ne s'agit pas des difficultés du quotidien des hommes, parce que ça, c'est le lot de tous. Que nous soyons croyants ou non, nous avons tous des problèmes et des difficultés, mais ça, c'est la vie. Mais quand il est question de la croix de Christ, celui qui ne porte pas sa croix, c'est finalement, eh bien, peut-être les difficultés que nous pouvons rencontrer parce que nous sommes avant tout chrétiens. Et on pourrait dire que dans un pays d'obédience chrétienne ou de culture chrétienne comme le nôtre, ça devrait être facile d'être chrétien. Ouais. Ben, c'est pas ce que nous pensons et c'est pas ce que nous éprouvons, en tous les cas, c'est pas ce que nous vivons. Parce qu'être chrétien au sens d'être un véritable disciple de Jésus, c'est être moqué. C'est être critiqué. Dans une certaine époque de l'histoire des hommes, c'était quelquefois être persécuté, avoir des tribulations. Au début du christianisme, c'était être jeté sous les dents des fauves ou brûlé vif. Ça a été comme ça, hein, être chrétien. Alors aujourd'hui, Dieu merci, les choses sont différentes. Mais si nous voulons véritablement affirmer notre foi, faire profession de foi comme Jésus le demande, eh bien on aura toujours des gens qui nous prendront peut-être un petit peu pour des gens éthérés, alors que nous ne le sommes pas et nous ne voulons pas l'être, et toutes sortes de choses semblables. Alors, voilà, Jésus pose les conditions, et je le rappelle, la condition première, c'est avant tout de lui donner la priorité dans notre vie. Et ça, c'est un choix personnel. Jésus ne nous oblige pas à le faire. Il y a un appel pour chaque homme, que nous percevons ou que nous refusons, que nous entendons ou que nous acquiesçons, mais il y a un appel pour tout homme. Alors, c'est la liberté, c'est vrai. Et il prend une première image, il y en a deux, hein. Je vais vous donner le contexte un petit peu, il y a deux images, deux exemples qui nous sont donnés. Il y a le bâtisseur imprévoyant, et il y a le soldat irréfléchi. Donc deux paraboles qui se font suite, justement pour montrer, eh bien là, l'importance de la profession de foi qui ne doit pas être précipitée, mais réfléchie, et qui, par-delà tout cela, eh bien, nous amène finalement au succès et qui nous amène à être des vainqueurs. Alors, on va commencer par le premier. Il nous est dit, « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront, eh bien, se mettent à le railler, à le critiquer, à le moquer, en disant, eh bien, c'est très beau, il avait un beau programme, il avait un beau projet, mais il a commencé, mais il n'a jamais fini. Donc, ce qui est à prendre en compte, et comme le dit la Bible, ce qui est important, ce n'est pas le début d'une chose, c'est la fin. Comment ça se termine? Alors, si ça ne se termine jamais, alors on pourrait peut-être, en effet, se poser des questions. Donc, il y a le bâtisseur imprévoyant. Il s'agit d'un édifice à construire, et cet édifice à construire, c'est la vie chrétienne. Parce qu'on va rester dans la même pensée, naturellement, c'est ce que Jésus veut sous-entendre. Construire notre vie, et pas n'importe laquelle, c'est pas la vie de l'ordinaire des hommes, parce que nous sommes tous engagés dans l'existence avec, eh bien là, des responsabilités, avec un travail, avec des obligations, avec tout ce que cela peut comporter, hein, c'est le tout à chacun, hein, du quotidien. Mais il s'agit donc de construire notre vie intérieure, notre vie morale, notre vie spirituelle, on l'appelle d'une manière tout à fait, hein, on l'appelle tout simplement la vie dans la foi, la vie spirituelle si vous aimez mieux. Alors, il y a là des paramètres qui sont importants de prendre en considération. Je pense à une autre parabole que Jésus nous laisse quand il parle du sage qui a bâti sa maison sur le roc et du fou qui a bâti sa maison sur le sable. Et si vous vient à l'idée de construire une paillote sur la plage de Saint-Nazaire, faites attention, il y a des marées de temps en temps, hein, ça monte et ça descend, hein, mais voilà. Donc on comprend tout de suite qu'il y a une réflexion à la base et une irréflexion, un manque finalement, d'avoir pesé la chose lorsque on choisit finalement le sable au lieu de choisir le roc. Et ça, c'est quand même les résultats sont pas les mêmes, pas du tout. Alors, ce que nous entend Jésus, c'est que bâtir, ça coûte. Alors, c'est vrai que nous sommes dans une société où on peut demander des crédits. Alors, ça, c'est comme ça que ça se passe très souvent, mais ça coûte. Mais, justement, parce que ça coûte, alors on va pas partir comme ça à l'aventure et partir sans réfléchir, puisque si les choses étaient si faciles comme ça, on se dit, bon voilà, ça ne coûte rien, on réussit pas, tant pis. Mais imaginez-vous que quelqu'un fasse bâtir une maison, qu'il emprunte une grosse somme d'argent selon son choix et selon ses possibilités, et là il va y réfléchir parce qu'il peut dire, il va se dire, il faut absolument que je rembourse le prêt, d'une manière ou d'une autre. Alors il va un petit peu analyser la chose et il va dire, voilà, je vais peut-être aller au moins cher, je vais prendre des choses, des matériaux vulgaires et quelconques. Ou alors, à ce moment-là, je vais mettre un peu plus cher, ça prendra un peu plus de temps, un peu plus d'efforts, un peu plus de travail, mais non seulement je vais choisir le socle, je vais choisir le sol, le fondement, et puis je construirai dessus. Et je crois que ça, c'est quand même très important, parce que finalement, il n'y a rien de plus terrible, même si on met une somme d'argent quelconque et une petite somme, de toute façon, ça fait toujours mal au cœur quand tout disparaît, tout s'effondre. Et dans la vie spirituelle, c'est la même chose. Quelle est la valeur que nous donnons à notre vie et à la vie de la foi, à la vie en Jésus-Christ? C'est ça. Est-ce que d'abord nous voulons? Parce que je l'ai dit il y a un instant. Mais à partir du moment où nous avons bien compris le message, l'appel qui nous est adressé, alors à ce moment-là, il faudra être conséquent. Parce que on ne peut pas partir sans finir. Puisque le but, finalement, c'est d'arriver, au terme, et d'y arriver en ayant réussi. Alors, Jésus laisse entendre cela parce que c'est important. Et il dira ces paroles, il y a un préliminaire, s'il veut bâtir une tour, une maison, ce que voudrait, cet homme-là, il s'assied d'abord pour en calculer la dépense, pour voir s'il a de quoi. Voilà. Quelles sont nos ressources ? Quelles sont nos possibilités? Combien de temps ça va demander? Quels sont les efforts qui nécessiteront pour l'achèvement de ce que je suis en train de mettre en place? S'asseoir et calculer. En tous les cas, quand Jésus emploie ces deux verbes, il veut nous dire que tout cela, ces verbes, qui sont des verbes d'action, s'asseoir, c'est-à-dire se tenir en repos, pour réfléchir et mieux réfléchir. Et ensuite, calculer. Quand on fait un calcul, s'il est un petit peu complexe, on ne le fait pas en courant. On s'assoit, on se met à son bureau, on prend un papier, une calculette, un crayon, et là, on va faire les détails, on va recalculer, on va le faire plusieurs fois même, à la limite. Donc, ça, ce sont des verbes d'action avant véritablement de mettre les choses en place, et ce sont les emblèmes d'un profond et sérieux recueillement. Oui. C'est-à-dire que le mot recueillement n'a pas une connotation peut-être religieuse, mais de dire, voilà, je me tiens tranquille, et là, je vais penser autant que cela m'est donné à toutes les possibilités de réussite ou d'échec ou de faillite. Et je vais faire en sorte de mettre le maximum de chances ou de possibilités de mon côté. On n'est pas fou. Je pense que personne n'aurait l'idée de dire « je m'engage dans une aventure dans laquelle je veux perdre ». Il ne va pas s'engager, c'est logique. Mais bon, on est quand même des gens raisonnables et on veut arriver jusqu'au bout. Donc c'est l'emblème de la réflexion avant d'entreprendre. Il y a un passage de la Bible qui nous dit que celui qui se précipite n'arrive qu'à la disette. Vous connaissez, vous l'avez peut-être lu, ça. Et c'est vrai que l'insensé, il part et il réfléchit après. Mais quand il a réfléchi, c'est déjà fini parce qu'il ne reste plus rien. Et je crois que Jésus le demande. On ne s'engage pas dans la vie de la foi ou dans, finalement, une aventure ou l'aventure de la vie chrétienne sans avoir pesé le pour et le contre. Non pas que nous allons mettre de notre côté toute notre volonté, tout ce qui est possible de faire, mais on sait très bien que dans cette aventure-là, nous avons besoin avant tout de Dieu pour qu'il nous conduise et qu'il nous fasse réussir. C'est pas avec seulement nos propres efforts, ce n'est pas avec notre intelligence, avec nos analyses, nos déductions. Non, nous avons vraiment besoin de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus dira « Ce que je vous demande, c'est que vous me donniez la priorité. » Dans une construction, il y a toujours un chef de chantier qui conduit les autres. C'est normal. Puis au-dessus, il y a l'architecte, il y a voilà, le maître d'œuvre. Enfin, je connais pas trop un petit peu la partie. Mais toujours est-il qu'il y a quand même des gens qui dirigent. Voilà. Et dans une guerre, il y a un général. Hein, il y a des officiers qui conduisent. Et Jésus nous dit, mais moi je suis, si vous voulez, je suis l'architecte de votre vie. Je suis le maître d'œuvre. Je suis celui qui peut vous dispenser de tout, mais il faut que vous me donniez la priorité. Imaginez-vous qu'un manœuvre sur un chantier dise, finalement, eh bien l'architecte, moi je veux faire un peu à ma manière, ça va pas marcher, hein, je crois pas. Hein, ça marchera pas parce qu'il est obligé de suivre un plan, tout à fait, des choses tout à fait précises. Et quand Jésus nous dit, donnez-moi la première place, parce que vous allez réussir, et vous réussirez avec moi, parce qu'autrement, ce n'est pas possible. Vous ne parviendrez pas à votre but. Et dans une guerre, c'est pas le simple soldat qui va dire au général, écoutez, moi je pense que c'est comme ça qu'il faut faire, hein. La stratégie militaire, voilà. Donc, on revient sur la première pensée, c'est qu'il faut lui donner la priorité. Et c'est lui. Et quand on donne la priorité à quelqu'un, c'est qu'on lui fait confiance. On ne comprend pas toujours quels sont ses plans et la manière dont il va orienter les choses, mais on lui fait confiance. Et la seule chose que Dieu nous demande, c'est que nous lui fassions confiance, que nous fassions foi à ses paroles pour réussir. Tout le monde veut réussir et tout le monde veut être vainqueur. Mais il faut lui donner donc la première place. Et après, nous pourrons entreprendre. Alors ça, c'est la première chose. Alors, il réfléchit et il pense à la chose pour la terminer. Parce que ce qui est terrible, c'est ce que Jésus sous-entend après. Il dit, mais s'il ne termine pas, eh bien, il court le risque qu'après avoir posé les fondements sur le roc ou sur le sable, avec tel ou tel autre matériau, eh bien, il ne puisse finalement mener à bien, à son terme, ce qu'il a entrepris, ce qu'il a commencé. Et puis les gens vont lui dire, ah, regarde, ah, tu nous en avais parlé de ton projet, tu nous avais dit ceci et cela. Alors, tu vois, regarde, hein, tu avais, comme on dit, tu as vu plus grand que ce que tu ne pouvais faire. Voilà. Et je pense qu'il faut rester modeste aussi. Et dans la vie spirituelle, il faut rester modeste. Que l'on commence dans la vie spirituelle ou que l'on soit déjà engagé depuis un certain temps, il y a une chose qui nous fera réussir, c'est l'humilité et la modestie. Voilà, en se confiant en Dieu. Et pas dire j'ai des projets, ceci, cela, etc. Alors si on a des projets, c'est très bien, mais il faut que les projets soient soumis à Dieu pour que ce soit lui qui les bénisse et qui les amène à leur terme. Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu l'achever. Alors, déjà, dans cette première image, il y a la réflexion. Dans cette première image, il y a également sur quelle base nous bâtissons notre vie spirituelle. Le choix du terrain. Eh oui, est-ce que c'est un sol qui va soutenir le poids d'une maison ou est-ce que c'est vraiment quelque chose sur lequel nous pouvons nous engager parce que c'est solide? Avec quoi nous allons construire? Et le choix, finalement, des matériaux est important. Dans une des lettres de Paul, il nous parle que certains construisent avec de l'or, avec de l'argent, avec des pierres précieuses. C'est tout ce qui est noble et a de la valeur, donc c'est solide. Et puis il dira, mais il y en a d'autres qui construisent avec du foin, avec du chaume, avec de la paille. C'est pas tout à fait la même chose. Hein, il y a véritablement le solide et puis ce qui va disparaître. Parce que dans toute construction, il faut tenir compte que nous devons atteindre l'objectif de la solidité, qu'il faut avoir aussi en vue la durée de la construction et la résistance à toutes les choses qui peuvent venir de l'extérieur. Et dans la vie spirituelle, c'est pareil. Je veux suivre Jésus, je veux construire ma vie de foi, je veux être chrétien, je veux être disciple. Il faut tenir compte que la solidité, elle est en Christ, que la durée, c'est pas de commencer, mais c'est d'aller jusqu'au bout, Et puis la troisième chose, il faut résister aux épreuves. Il faut résister aux difficultés de la vie, à tous les vents qui peuvent souffler d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est important. Et puis, on pourrait toujours se dire, mais on doit se le dire avant, une maison, pour quoi faire ? Normalement, une maison, c'est fait pour habiter. Ou c'est pas fait uniquement pour épater les voisins, j'espère. Hein ? Bon, je sais que dans le passé, il y a des hommes, des rois qui se faisaient construire des châteaux, qui subsistent encore aujourd'hui. Hein ? Les hommes ont disparu, maintenant, ce ne sont plus que des touristes qui les visitent. Hein ? Mais toujours est-il que, voilà, une maison, pour quoi faire ? Une vie chrétienne, pour quoi faire ? Parce que bien sûr, nous y avons aspiré, parce que nous le désirons. Et la Bible répond, vous savez que dans cette construction, il nous est dit dans une des lettres de Pierre, il nous est dit que construire, parce que chacun d'entre nous, nous sommes des pierres vivantes. Vous connaissez le terme, hein, pierre vivante. Un chrétien, c'est pas quelqu'un de mort. Un chrétien, c'est quelqu'un de vivant, de dynamique, qui est capable finalement de transmettre autour de lui non pas des choses négatives, des choses tristes et sans importance, des choses médiocres, mais quelqu'un qui est capable de communiquer finalement la vie aux autres. C'est ce qu'on appelle l'espérance. Et nous sommes des pierres vivantes. Et nous sommes finalement les uns et les autres dans cette construction que Dieu met en place. Et puis, une maison, quand elle est vide, elle n'est pas faite pour cela. Elle doit être habitée. Parce qu'une maison vide, une maison inoccupée et non entretenue, eh bien, elle se détériore très rapidement. Vous avez déjà quand même vu, déjà dans votre jardin, si vous ne le bêchez pas et si vous n'enlevez pas les mauvaises herbes, vous allez voir un petit peu comment ça va finir. Hein, ça pousse dans tous les sens, les ronces, en l'espace de peu de temps. Hein, ça va se développer. Eh bien, justement, ce que Dieu veut, c'est que notre maison, notre vie, eh bien, elle soit entretenue. Et le meilleur moyen pour l'entretenir, c'est de garder toujours cette relation prioritaire avec Dieu. Nous pouvons le faire par sa parole que nous lisons. Nous pouvons le faire naturellement par la prière et puis bien d'autres moyens. Alors, vide ou occupé, c'est important de savoir ce que nous voulons faire avec tout ça. Et puis après, il y a la deuxième petite parabole qui apparaît. Et elle est assez intéressante parce que il ne s'agit pas de construire, de bâtir pour réussir ou réussir dans cet objectif, finalement, du succès. Mais maintenant, il s'agit d'être vainqueur. Vous savez que dans notre monde, il y a des vaincus et des vainqueurs, sans faire la guerre. Il y a des gens qui sont, eh bien là, des battants, et puis il y a des gens qui sont des souffrants, on pourrait dire, parce qu'ils ne peuvent plus se battre, parce qu'ils n'ont plus la capacité de réagir. Ce sont des gens qui sont souvent malheureux avec des échecs de l'existence, qui ont été broyés par la vie, qui ont été mis sur le bas-côté, c'est terrible, hein, il y en a beaucoup. Et justement, c'est peut-être à ces gens-là que Dieu s'adresse, pour dire, eh bien, relève la tête, redresse-toi, parce que moi, je peux faire quelque chose pour toi. Il y a des hommes qui se sont battus toute leur vie, mais ils ont voulu se battre tout seuls. Ils se sont battus en faisant leurs propres efforts, sans compter sur Dieu. Et il est question donc d'une guerre. Et vous savez, la vie, c'est une guerre. Hein. C'est un combat permanent. Il faut se battre pour ceci et cela. C'est tous les jours que nous devons véritablement affronter des problèmes, des questions, des situations pour trouver des solutions et des meilleures solutions. C'est une guerre. Alors fort heureusement, on ne sort pas les fusils et les canons, hein, mais c'est une lutte. Une lutte sur le plan de notre corps, parfois, lorsque nous luttons contre la maladie, contre les infirmités, contre l'accident et toutes sortes de choses. Mais ça peut être une lutte intérieure. Je pense que c'est beaucoup plus une lutte morale. Hein, quand on voit qu'il y a tant de gens qui sont aux prises avec la dépression, avec vie de médiocrité négative, hein, qui sont toujours en train de se plaindre, parce que peut-être qu'ils ont des raisons de se plaindre, hein, et qui sont dans les pleurs, dans le chagrin, à travers des angoisses, des peurs, de l'anxiété, ça c'est une guerre aussi. C'est une guerre et il faut la mener parce que soit on peut être véritablement en sortir, ou alors on se laisse dominer, on subit les choses. Et je crois que Dieu nous a pas appelés à subir les choses, mais à être des actifs, à être des gens qui prennent en main, finalement, leur destinée. Cette destinée, c'est vrai, avant tout, elle est entre les mains de Dieu, mais de l'associer dans ce combat et dans cette lutte. Alors, il y a le soldat irréfléchi. Il est parlé d'un roi, bon, peu importe. Et il nous est dit que ce roi, il va faire la guerre à un autre roi. Il doit avoir une mésentente, hein, territoriale ou autre. Et il nous dit, mais quel est le roi qui va, dans ses intentions de partir en guerre avec son peuple, qu'est-ce qu'il fait d'abord ? Comme le premier, il va s'asseoir, il va prendre ses généraux, Il va prendre ses stratèges militaires. Il va dire, voilà, il vient avec 20 000 soldats. Comment je vais faire ? Sur quel terrain nous allons nous battre ? Comment nous allons engager la bataille ? Et si c'est lui qui nous attaque, mais comment nous allons nous défendre ? Et ceci et cela. Bah, ça se réfléchit avant, hein. Ça se réfléchit, c'est tout à fait normal, c'est logique. Jésus nous dit des choses qui sont tout à fait sensées. Alors, il s'assoit et il examine si, avec son armée, qui comprend 10 000 hommes, c'est ce que le texte nous dit, est-ce qu'il peut marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000 ? Un pour deux. Je ne sais pas comment vous pouvez, comment vous réfléchissez et quel parti vous prendriez, finalement. Voilà, hein, il vient là avec une armée qui est deux fois supérieure à la mienne. Qu'est-ce que je fais ? Je l'attaque quand même, à moins que j'ai des armes dont il ne dispose pas, des armes plus puissantes que les siennes. Mais qu'est-ce que je vais faire ? Alors à ce moment-là, la réflexion nous est donnée par Jésus, il nous dit, mais s'il le peut, tandis que cet autre roi qui vient l'attaquer avec une armée beaucoup plus nombreuse que la sienne, alors à ce moment-là, s'il le peut encore, pendant qu'il est loin, il ne faut pas qu'il soit prêt parce qu'il ne va pas se déplacer pour rien, hein, le second qui va l'attaquer. Alors à ce moment-là, il va plaider la grâce. Il lui envoie une ambassade pour demander la paix. C'est une belle image. Parce que là, nous voyons que si nous sommes véritablement ce soldat irréfléchi ou ce roi irréfléchi, eh bien, il va se dire, je vais y aller quand même. Et vous savez, quelquefois, le bon sens de la vie, mais seulement le bon sens de la vie, nous dit, fais-donc attention. Et on s'aperçoit que devant les avertissements les plus logiques qu'il y a autour de nous, hein, et que nous pouvons puiser en nous-mêmes également, il y a des gens qui foncent quand même. On leur dit « casse-cou », on leur dit « mais attendez, il y a un mur devant vous, arrêtez-vous avant qu'il soit trop tard ». Eh bien, il y en a qui vont quand même. Et vous savez comment on les récupère ? On les récupère, ils sont complètement vaincus, tout simplement, parce qu'ils n'ont pas écouté les conseils, parce qu'ils n'ont pas voulu tenir compte, tout simplement, du bon sens élémentaire. Hein ? Quand la proposition nous est faite, avec les proportions comme elles sont faites, alors, celui qui est sage, il se dit, je ne vais pas pouvoir être vainqueur. Alors le mieux, c'est de demander grâce. Et ça, vous savez, c'est un petit peu l'histoire de l'homme qui pense toujours s'en sortir par lui-même, avec ses forces, avec son intelligence, avec sa science, avec sa connaissance, avec son expérience, toutes sortes de choses. Il se dit, mais Dieu, ça compte pas. Je vais y arriver quand même. On va bien trouver quelque chose pour parvenir à prendre la victoire sur l'ennemi. Et ça, c'est complètement faux. Hein. C'est complètement faux. Parce que par-delà le bon sens, eh bien, il y a un autre principe qu'il faut tenir compte. C'est que quand on prend la dimension de notre faiblesse, de notre impuissance, que quelque part nous ne sommes que des hommes et nous ne sommes pas des dieux, eh bien, à ce moment-là, il vaut mieux plaider la grâce. Et au lieu d'avoir la guerre, au lieu de faire mourir des centaines et des milliers de personnes, qui quelquefois n'y sont pour rien, de faire des dégâts épouvantables autour de nous, et jusqu'à en perdre soi-même la vie, alors à ce moment-là, eh bien, il faut mieux demander grâce. Et c'est l'histoire. C'est l'histoire de cette humanité, l'histoire des hommes depuis le jardin d'Éden, qui s'est entêté à vouloir finalement enfoncer des portes ouvertes, vouloir finalement eh bien révolutionner le monde, la vie et tout ce que vous voudrez, et qui à chaque fois eh bien se retrouve dans des situations épouvantables, des situations impossibles. Le bon sens nous dit, l'intelligence la plus élémentaire nous dit, demande grâce, et c'est ce qui se passe, et c'est tout le cœur même de l'évangile, quand Dieu a envoyé Jésus-Christ pour que nous puissions, par la foi en Christ qui est mort pour chacun d'entre nous sur la croix, eh bien, de reconnaître que Jésus se fait notre allié, il ne se fait pas notre ennemi, il se fait notre compagnon, notre ami et notre allié, pour que, avec lui, nous puissions demander à Dieu qu'il nous fasse grâce pour être sauvés. Voilà, pour avoir la paix, cette relation entre la créature et le Créateur. Et qu'à ce moment-là, eh bien, nous puissions véritablement rentrer sains et saufs. Alors, pour revenir à ce soldat irréfléchi, cette image, eh bien, évoque une guerre périlleuse avec en face de soi un ennemi qui est plus fort et qui est plus puissant. Alors moi, je vais vous donner son nom. Le nom de cet ennemi a deux visages, mais deux tempéraments et deux caractères particuliers. Il y a d'abord notre moi. Vous savez, notre personnalité, notre orgueil, nos prétentions en disant « je suis un homme et j'y arriverai bien ». Ça, c'est le premier ennemi. Et puis, il y en a un qui se cache derrière le premier. Celui-ci, il est toujours invisible, il est mystérieux. Il s'appelle le diable. Parce qu'il existe aussi. Et c'est lui qui manipule les hommes en leur disant « mais pouf, tu peux y aller, t'es assez fort, tu vas y arriver ». Et lui nous pousse finalement. Il nous pousse à nous perdre. Voilà, fais donc la guerre. Tu vas voir, tu vas la gagner la guerre. Puis on s'aperçoit que finalement on gagne rien, on y perd la vie. Et c'est ça justement. Alors il ne faut pas de bravade. Nous voulons être chrétiens, nous voulons suivre Jésus, nous voulons vivre notre vie de foi et notre vie chrétienne. Attention à la bravade. Il y en a un qui nous a donné un exemple de bravade, c'était l'apôtre Pierre. Quand il a dit à Jésus, « Oh, mais tu ne mourras pas, moi je ne te réunirai jamais. » Vous savez, vous connaissez l'histoire du coq là, on est bientôt à Pâques. Hein. Ouais. Et la première chute qu'il a fait, Pierre, c'est justement de tomber dans ses paroles, parce qu'elles étaient complètement irréalistes et téméraires. Et puis, il faut dire aussi que l'enjeu d'une guerre, c'est le risque d'y perdre la vie. Eh oui, là il y a différents champs de bataille hein, dans notre monde, pas sur notre sol, mais en Afghanistan, dans différents lieux de conflit dans le monde aujourd'hui. Eh bien, c'est quand on s'y engage, on a un risque de perdre la vie. Et l'engagement consiste tout simplement, avant de partir dans l'action, que l'on ait d'avance tout simplement accepté de tout perdre, peut-être même de donner et d'y laisser notre vie. Et vous savez, ça me fait souvenir à cette parole que Jésus nous laisse. Si quelqu'un veut être mon disciple, comme nous l'avons lu, s'il veut conserver sa vie, il va la perdre. Mais s'il me la donne, il la retrouvera. Ça, c'est l'enjeu. Et on revient toujours à la même chose. C'est toujours le même principe. C'est toujours Jésus en priorité dans notre existence. Il y a beaucoup de gens qui nous disent « moi, je veux pas être chrétien parce que je ne serai plus libre ». Mais ils n'ont pas compris le sens des choses. C'est que finalement, être chrétien, c'est de trouver la liberté. La liberté avec soi-même, la liberté avec notre conscience, la liberté avec notre cœur, nos sentiments, la liberté dans notre âme, la liberté dans nos pensées, la liberté avec les autres. Alors, ça, c'est un faux raisonnement qui fait que lorsque nous ne voulons pas donner notre vie à Dieu, eh bien nous devenons de plus en plus esclaves, à commencer par nous-mêmes. Ouais, ça, c'est le paradoxe. Pourtant, l'Évangile nous le dit, et il appelle les hommes à prendre en considération. Alors, il envoie une ambassade et il demande la paix. Ce que je voudrais dire avant de terminer, je pense que nous avons besoin dans nos luttes, dans nos résistances, dans nos oppositions, dans tout ce qui, quelquefois, nos entêtements, notre obstination, nous avons besoin de faire la paix avec Dieu. Ouais. Et de dire, Seigneur, écoute, tu me connais, tu sais comment je suis, j'ai pas toujours le caractère facile, mais Seigneur, donne-moi de capituler devant toi parce que c'est si bon et si bien de vivre dans la paix. Et de vivre en dehors d'un conflit, en dehors des conflits. Vous savez, les gens qui cherchent toujours à discuter ou à disputer ou à se chamailler avec les autres sont des gens de guerre, avec un esprit de guerre, d'esprit de dispute. Et c'est vraiment pas facile. C'est pas drôle, hein. C'est vrai, c'est pas drôle, alors que nous pourrions vivre en paix. D'ailleurs, la parole nous le dit, soyez en paix autant que cela dépende de vous. Et la première paix que nous avons besoin, c'est d'affaire avec Dieu. La paix de Dieu. Il nous est simplement rappelé que cette paix de Dieu, elle surpasse toute intelligence et elle garde nos cœurs de toute haine, de toute vengeance, de toute mauvaise chose, de tout ressentiment. Et elle garde nos cœurs et nos pensées, et bien justement en Christ, parce qu'on lui a donné la première place. Alors, Jésus en conclusion dira ainsi donc, « Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Est-ce que je dois vendre ma maison ? Ma voiture, et puis tout ce que je possède pour te suivre comme un vagabond sur les chemins de la terre. » Non, c'est pas ça. Parce qu'on peut garder tout ce que l'on a. Écoutez bien, on peut garder tout ce que l'on a. Le problème, c'est de savoir si notre cœur n'est pas possédé par ce que nous avons. La question, elle est là. Parce qu'il y a des gens qui peuvent finalement avoir les apparences d'être complètement détachés. Ça, c'est vrai. Et il y a des gens qui, quelquefois, eh bien, trompent par finalement leur façon d'être, de parler et de dire. Parce que quelquefois notre esclavage ou ce qui domine finalement notre vie et qui devient parfois une obsession, même une passion, ça ne se voit pas au premier coup d'œil. Ça se voit dans le cœur. Quand les gens sont attachés de cœur à une chose qui est mauvaise, à une chose qui les détruit. Je pense à l'alcool, à la drogue, à toutes sortes de vices, ne serait-ce que le mensonge. Ou la haine dans son cœur. Les gens diront, mais moi, vous savez, je suis capable d'aimer tout le monde, mais il y a une chose, c'est que je pourrai jamais pardonner à cette personne. Eh ben, ça donne la preuve que finalement, eh bien, il est esclave. Il est esclave de ça, de son ressentiment et de sa, d'une désir de vengeance ou de revanche. Ainsi donc, eh bien, qu'il renonce à tout ce qu'il possédait, il y en a un qui peut nous libérer. C'est Jésus encore. Ouais. Il peut faire le vide dans notre cœur, il peut nous nettoyer. Et vous savez, à ce moment-là, quand on a été nettoyé de l'intérieur, on peut construire sur du solide. Et on peut partir à la guerre, dans toutes les guerres de la vie, de l'existence, et on sera vainqueur. Parce que le grand problème, le premier ennemi, il est à l'intérieur de nous-mêmes. Voilà. Alors, tant qu'on n'a pas réglé le problème à l'intérieur, et c'est ce que l'on appelle se convertir à Jésus-Christ. Ouais. Se convertir à Jésus-Christ, c'est de prendre Jésus dans notre vie. De le laisser agir, de le laisser faire, par son esprit, par sa parole, en lui demandant qu'il vienne nous aider. Alors, à ce moment-là, il va nous libérer de l'intérieur, et nous serons vraiment libres. Et là, on pourra commencer à construire. Parce que si on essaie de construire une maison ou de partir à la guerre, vous avez vu un soldat quand il part à la guerre? Bon, ben, il a le matériel de guerre. Mais il n'emmène pas ses meubles, il n'emmène pas sa maison, il n'emmène pas ses enfants, il n'emmène pas sa femme, il n'emmène pas... Non, non. Il part, pour être vainqueur. Il s'encombre pas. Mais nous, combien nous sommes de fois encombrés par toutes sortes de choses. Non pas des choses matérielles extérieures, mais souvent ce qui nous possède à l'intérieur, dans notre cœur. Et là, on ne peut pas courir. On ne peut pas marcher, on ne peut pas bâtir. On ne peut pas avoir, finalement, eh bien, du succès. Le sel est une bonne chose. Mais si le sel perd la saveur, vous savez ce qui fait la valeur de la foi? C'est notre engagement, c'est notre détermination, c'est notre persévérance. C'est ça ce qui fait la valeur. Alors avec quoi l'assaisonnera-t-on? Parce qu'on n'a jamais vu du sel assaisonné avec un autre sel pour essayer de lui redonner de la saveur. Ça n'existe pas. Alors il nous est dit qu'il est bon ni pour la terre ni pour le fumier, on le jette dehors. Et Jésus nous dit pour terminer, alors si vous avez des oreilles, et ce soir vous êtes tous venus avec les oreilles, avec vos oreilles, parce que c'est pas possible de faire autrement. On peut venir avec nos oreilles, mais elles peuvent être bouchées. Ou alors elles peuvent être en courant d'air, ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre. Mais comme vous l'avez entendu, et que vous ne dormez pas encore, alors je suppose que, voilà, vous avez bien compris ce que cela veut dire, tout simplement. Alors, je terminerai à chacun de choisir, en fonction de ce qu'il a entendu, et je suis convaincu que vous avez compris, ça c'est clair, de savoir ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que nous voulons les uns et les autres? Est-ce que je suis venu ce soir, c'est simplement un discours, un sermon, qui... finalement, eh bien, m'a fait passer mon temps et je me dis, mais quand est-ce que ce prédicateur va s'arrêter pour aller me coucher? Ou alors, qu'est-ce que vous voulez? Voilà, Dieu vous le demande. Dieu nous le demande, qu'est-ce que nous voulons? Enfin, moi, je vais répondre, si ça peut vous agréer. Moi, je vais aller encore plus loin avec Jésus. Moi, je veux encore le connaître davantage. Je veux encore faire des expériences avec lui. Je veux lui obéir davantage, malgré que je ne suis pas toujours obéissant. Je veux l'aimer. Je veux véritablement faire encore de nouvelles expériences, parce que c'est un Dieu qui est extraordinaire, merveilleux, et je sais, comme dit le prophète, eh bien les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin pour ceux qui le craignent. Alors, on ne va pas attendre demain matin, la bénédiction elle est pour ce soir, parce que Seigneur, tu m'as promis de construire, de bâtir et de réussir, et tu m'as dit que je peux être vainqueur, si je le veux, et je veux être vainqueur. Alors nous allons prier simplement. Que Dieu nous bénisse. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier, Seigneur, parce que tu nous as dit des choses toutes simples. Des choses qui ont, en effet, qui sont pleines de bon sens. Et il y a une intelligence, Seigneur, qui n'est pas seulement une intelligence humaine, même si elles sont simples, elles sont profondes. Parce que finalement, il n'y a aucun homme sur cette terre qui veut vivre l'échec. Il n'y en a pas qui veulent, eh bien, connaître faillite sur faillite. Nous voulons tous, à un moment ou à un autre, avoir notre part de bonheur. Et ça pourrait se résumer à travers ce mot « bonheur ». Alors, tu nous dis, Seigneur, comme dans les Béatitudes, « heureux celui ou heureux celle ». Alors, Seigneur, apprends-nous à construire avec toi. Donne-nous d'être, permets-nous d'être, en effet, Seigneur, le maître constructeur, parce que tu sauras nous dire ce qu'il faut, comment il faut faire, comment construire, sur quelle base, avec quels matériaux. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous comptons sur toi. Et puis, Seigneur, la vie, c'est un combat, c'est une lutte en permanence. Nous nous battons pour ceci, nous nous battons pour cela, nous nous battons pour vivre. Mais Seigneur, il y a un combat qui est perdu d'avance, si nous voulons le mener nous-mêmes, tout seuls. Et puis il y a l'assurance, la promesse d'un combat qui est déjà remporté par celui qui nous a précédés, c'est-à-dire Jésus qui marche devant nous, parce que nous pourrions dire que, dans cette armée, tu es véritablement le général en chef. Et, Seigneur, tu sais où tu mènes tes troupes, tu sais où tu mènes tes disciples, tu sais où tu mènes, en effet, Père éternel, ceux et celles qui veulent te suivre, pour être, en effet, des vainqueurs. Seigneur, tu nous bénis ce soir. Donne-nous, Seigneur, de prendre notre part. Et puis tu nous as posé cette question, eh bien, le veux-tu? Alors nous voulons y répondre, Seigneur, je le veux. Oui, Seigneur, sois le sauveur de mon âme, sois le Seigneur de ma vie. Tu es, en effet, celui dont chaque homme, chaque femme a besoin, dans cette vie présente, mais aussi, Seigneur, en préparation de l'éternité. Parce que te suivre, ce n'est pas quelque chose de temporel, mais c'est quelque chose d'éternel. Le salut est éternel, et nous t'en bénissons et nous te remercions, et nous le voulons, ce salut. Merci Jésus. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.